Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff, évidemment, toute la journée sur Sud Radio. Vous êtes bien et nous, on est ensemble avec Bertrand Soublet. Bonjour, ancien général numéro 3 de la gendarmerie, vice-président d'Objectif France. Patricia Balm, présidente fondatrice de PBCom International. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Mathieu Alterman, journaliste. Bonjour. Votre livre, Les larmes de Johnny au carnet Nord, est toujours en vente.
Je suis passé au prochain qui sort le 28 février sur les femmes fatales.
Ah, bah, faut me tenir au courant, là, mais c'est pas encore, donc on peut
bientôt
toujours acheter les larmes de Johnny. Voilà. Et Mehdi, comme vous y allez, vous voulez qu'on fasse un débat. Mehdi Ouraoui, porte-parole de Génération.S. Alors, on va parler de la loi anti-casseurs, une loi anti-gilets jaunes. Cette loi est discutée en ce moment même au Parlement. Faut-il aménager le 80 km/h par département, c'est-à-dire laisser la responsabilité au département de choisir les tronçons qui seront à 80 km/h. Et puis, cette information donnée ce matin, des djihadistes français, 130, sont sur le point d'être rapatriés en France. Est-ce qu'il faut les rapatrier déjà, les juger, les mettre en prison? Ça pose quand même un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. On va commencer avec Patricia. C'est un coup de gueule parisien, mais qui peut être, enfin, qui concerne la France, en fait, ça concerne les migrants.
Mais c'est un très, très gros coup de gueule, hein, aujourd'hui. Oui. Voilà, Madame Hidalgo...
C'est rare que vous soyez énervée comme ça.
Oui, je suis très énervée. Alors, Madame Hidalgo, qui a toujours de bonnes idées, mais surtout qui a une obsession dans sa vie, c'est le 16e arrondissement. Alors, Madame Hidalgo a décidé de réquisitionner un gymnase, qui s'appelle le gymnase Jean Bouin, où les enfants, 1500 enfants par semaine, vont prendre des cours de gym. Certains d'ailleurs s'entraînent pour le bac
à la
gym. Et donc Madame Hidalgo a décidé de réquisitionner ce gymnase Jean Bouin dans le 16e arrondissement pour accueillir des migrants. Mmh. Alors d'abord, ce que je voudrais dire à Madame Hidalgo, c'est que elle est très récidiviste, en particulier sur le 16e arrondissement. Elle réquisitionne des tas d'endroits, elle a mis des camps dans le bois de Boulogne, enfin, peu importe. Je dis simplement, et je donne un conseil à Madame Hidalgo, je trouve que le parvis de l'hôtel de ville a une très grande superficie où on pourrait construire un camp de migrants, et je pense que si elle les accueillait déjà chez elle, devant sa mairie, devant l'hôtel de ville, et qu'elle montrait l'exemple, ben ce serait une bonne chose. Ouais. Je trouve cette façon d'agir très arbitraire, un vis-à-vis des élus et vis-à-vis des gens dans le 16e arrondissement. Je rappelle, pour finir, que le 16e arrondissement n'est pas seulement un arrondissement de riches, qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants dans des clubs privés et qui donc les inscrivent dans des gymnases.
Et vous savez bien que le problème, c'est que le 16e arrondissement est un arrondissement qui n'a pas d'électeurs de cette femme, c'est tout. Enfin, c'est uniquement ça. Elle le met dans un endroit où il n'y a pas sa base électorale. Et pour dire après, regardez, c'est toujours les bourgeois du 16e qui ne sont pas contents.
Très
on l'a
bon
vu
argument.
Sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière. À chaque fois, c'est ça. Regardez les méchants du 16e, les machins. Mais personne ne vote pour Anne Hidalgo quasiment dans le 16e. Elle ne va pas le faire dans le 9e ou dans le 11, où il y a la base de son électorat. Ouais,
c'est pas vrai, Mathieu. Il y a eu des installations.
Mais il y en a beaucoup d'accueil, vraiment dans le 16e.
D'accueil pour les migrants.
Il y a les gens du 16e qui râlent.
D'abord, il y en a eu. Non, bah alors, j'ai l'impression, c'est bizarre, je peux me tromper, mais j'ai l'impression quand même que quand les gens du 16e râlent, bizarrement, on les entend beaucoup. Et qu'ils ont plus accès, peut-être.
C'est un arrondissement plus grand.
Plus accès aux médias, etc. Et que, bizarrement, quand les gens des catégories plus populaires et des quartiers plus populaires qui accueillent quand même très largement les migrants et font preuve de solidarité, de fraternité, quand eux peuvent émettre des opinions, parfois, on ne leur donne pas le micro.
D'ailleurs, c'était en partie
le problème d'ailleurs des Gilets jaunes. C'est que ce sont des gens qui étaient parfaitement invisibles et qui ont décidé à mort.
Sur cet arrondissement.
Alors, très bien, Patricia, avec tout le respect.
Dans le Marais, par exemple. Il n'y a pas de camp de migrants.
Il y en a eu dans le 12e, dans le 13e et dans le 14e.
Arrêtons de parler de camp de migrants.
Vosges, on
parle
d'accueil. C'est pas mal.
Ce sont des accueils de migrants. Par ailleurs, ce n'est pas vrai qu'Anne Hidalgo, par exemple, moi je ne suis pas là pour défendre Anne Hidalgo, je ne fais pas partie de son staff, je ne fais pas partie de son cabinet, je ne fais pas partie de je sais pas quoi, moi je ne suis pas un de ses amis, je ne fais même pas partie de son parti. Je dis juste simplement que d'abord, ce n'est pas vrai qu'elle n'a pas accueilli des gens à l'hôtel de ville, puisqu'elle vient de créer, il y a quelques jours, jours, je crois,
un centre d'accueil
pour les femmes qui sont en très grande difficulté et pour les femmes qui doivent quitter leur domicile. Bon, petit 1. Petit 2, par ailleurs, mais Patricia, avec tout le respect que j'ai pour vous, pardon, hein, là, ça ressemble quand même beaucoup au sketch des Inconnus, au Toy Neuilly Passy, où vraiment on a l'impression que les habitants du 16e sont martyrisés.
Je peux juste ajouter quelque chose. Le 16e arrondissement est certainement l'arrondissement de Paris avec le plus de migrants, justement, avec le plus d'ethnies différentes. Absolument. Et je peux vous dire, j'ai grandi dans le 16e, j'ai déménagé à l'adolescence dans le 20e, il y avait une bien plus grande diversité dans le 16e que dans le 20. Donc arrêtons de les idées reçues.
Vraiment, je crois pas. Ou alors peut-être des enfants de diplomates.
Il y a plein d'écoles de pays étrangers.
Voilà, c'est ça. Peut-être des enfants diplomates. Je crois pas que ce soit tout à fait les mêmes populations.
On est sorti des écoles publiques du 16e arrondissement.
Mais le sujet, c'est pas.
Vous verrez.
Mais il s'agit pas de faire le procès des gens du 16e. C'est justement le contraire. C'est de dire simplement, à un moment donné, tout le monde peut contribuer un peu à égalité. Les gens du 16e sont quand même des gens très privilégiés. Donc ils peuvent quand même un petit peu contribuer.
Mais ça pose la question de l'hébergement et de l'accueil des migrants. C'est-à-dire que là, sortons du 16e et de ce que vous voulez, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on réquisitionne un gymnase dans lequel il y a 3000 scolaires, c'est plus que 1500, 3000 scolaires qui vont...
1500 par semaine.
Comment on ne trouve pas des situations autres que celle-ci
Mais je vais vous dire pourquoi. Mais parce qu'à chaque fois qu'on veut créer un centre d'accueil pour migrants, il se passe, et d'ailleurs, quand il s'est agi de créer un centre d'accueil pour migrants dans le 16e arrondissement, la réaction était la même. C'est-à-dire que les gens les plus privilégiés... Mais ce n'est pas pour rien qu'il y ait une aussi grande ségrégation territoriale dans ce pays. S'il y a des quartiers, des ghettos de pauvres, bah, c'est bien aussi parce qu'il y a des ghettos de riches. Moi, je suis désolé, il faut à un moment donné, il faut quand même regarder les choses en face. Et donc, il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui ne veulent pas se mélanger, qui ne veulent pas avoir chez eux, mais c'est même pas une question de couleur de peau. C'est qu'ils veulent pas de moyens, ils veulent pas de pauvres, ils veulent rester plutôt entre eux. Moi, je suis pas là pour stigmatiser les gens du 16e, mais je dis juste simplement que pourquoi, à un moment donné, on est obligé de réquisitionner des gymnases, bah, parce que, à force d'être lâche, parce que ça s'appelle comme ça, à force d'être lâche, les responsables politiques n'ont pas construit les structures qui sont nécessaires à l'accueil des migrants. Or, il faut dire la vérité aux gens qui nous écoute, il va y avoir des arrivées de migrants. Les gens qui vous disent on va faire un grand mur comme Trump, et même lui il n'y arrive pas, vous mentent. Ça n'est pas vrai. Il n'y aura pas de grand mur, il n'y aura pas de barbelé, on ne sera pas une île.
Alors, pour être juste, pour continuer d'argumenter, il y a aussi, je pense, de la part d'Anne Hidalgo, la volonté de mettre devant le fait accompli. Je vois un tweet de quelqu'un qui dit on a été informé, les associations ont été informées le vendredi 25 janvier à 16h30 par la mairie de Paris de la réquisition de ce gymnase.
La maire du 16e
fermé dès lundi, donc il y a des méthodes un petit peu compliquées.
Mais qu'est-ce que du coup on fait On prévient.
Non, c'est pas la question, c'est pas ce que j'ai. Bertrand Soublet.
Le problème d'Anne Hidalgo, ce sont les méthodes qu'elle applique, essentiellement. Après, sur le but qu'elle poursuit, on peut toujours discuter, mais les méthodes qu'elle applique, franchement, c'est pas très démocratique, quoi. On va dire pour le moins,
Bon, mais là, voilà. ça pose la question de l'accueil des migrants.
Oui, absolument.
Allez-y avec votre coup de gueule.
Non, moi, pour tout vous dire, j'ai pas de coup de gueule.
Vous êtes de bonne humeur.
Non, je ne suis pas de bonne humeur non plus. mais je pense que dans ce pays, on a souvent beaucoup de coups de gueule. Il y a beaucoup de violence, j'allais dire, même verbale. Et moi, j'aimerais bien qu'on sorte de tout ça. Simplement, je voudrais faire un commentaire sur la communication du Premier ministre sur les chiffres de la sécurité routière.
Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais allez-y.
Et j'avoue... Non, mais c'est juste sur les chiffres, c'est pas tellement sur le 80 km/h
lui-même. Bah si, ça implique...
Non, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Et je suis consterné. Pourquoi ? Parce que... il faut se réjouir qu'il y ait près de 200 morts en moins sur nos routes. Ça, évidemment, tout le monde fait le constat. C'est un constat, c'est très bien. Mais se servir de cela pour faire de la communication et dire qu'on a économisé 116 vies à cause de la décision qui a été prise de limiter la vitesse à 80 km/h, franchement, je ne comprends pas. J'ai été directeur des opérations de la gendarmerie. Il se trouve que dans ma responsabilité, il y avait une sous-direction de la sécurité routière. Donc je sais comment sont faites les statistiques, je sais comment elles sont traitées, puisqu'en plus, sur le réseau secondaire, c'est celui qui est surveillé par la gendarmerie. Donc je connais bien le problème. Dire aujourd'hui qu'on a économisé 116 vies à cause de cette mesure, mais ça n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Parce que les spécialistes savent bien qu'il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre les mesures qui sont prises et les résultats de la sécurité routière. Tout le monde le sait. Donc tout ça n'est pas sérieux. Moi, ce qui me gêne, et en plus, quand on prend une décision le 1er juillet, tout le monde sait aussi qu'elle met un certain nombre de mois à se mettre en place correctement et à avoir des effets. Et tout le monde tous ceux qui connaissent les statistiques savent que pour tirer des enseignements des statistiques, il faut un recul, c'est-à-dire de plusieurs années. Ce n'est pas au bout de 6 mois. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Et je trouve qu'un gouvernement qui se sert de ce genre d'argument, de sophisme, parce qu'un sophisme, c'est un raisonnement faux et de mauvaise foi, qui se sert d'un sophisme pour justifier a posteriori les mesures qu'il a prises, c'est un gouvernement dont franchement... on peut atteindre le pire et dans lequel on ne peut pas avoir confiance.
Alors, on va en reparler de ces 80 km/h. J'ai bien entendu le sens de votre remarque. Mehdi.
Bon, un coup de gueule, un constat un peu attristé, là encore sur les méthodes du gouvernement, mais surtout sur la confiance qu'on peut accorder dans la parole politique. Le président de la République avait juré la main sur le cœur qu'il allait interdire le glyphosate, qu'il le ferait sous le quinquennat, etc. Il a d'abord repoussé la mesure, puis il vient d'annoncer il y a maintenant 48 heures, 72 heures, que la mesure était littéralement inenvisageable et que sous ce quinquennat, le glyphosate et d'autres pesticides ne seraient pas définitivement interdits. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Et sous prétexte, évidemment, de nécessité d'adaptation, sous prétexte de devoir prendre du temps, etc. Quand il s'agit de mentir sur l'annulation du glyphosate, sur la promesse d'annuler, de supprimer le glyphosate, il n'y a absolument aucun problème, ça ne le gêne pas, et ça ne le gêne pas non plus de supprimer immédiatement l'ISF. C'est-à-dire que pour supprimer le glyphosate, il faut du temps, pour supprimer l'ISF, on peut le faire tout de suite. Excusez-moi, mais la bonne santé financière du patrimoine des gens qui payaient l'ISF m'importe moins que la bonne santé de nos
enfants. C'est pas une question d'importer ou pas, c'est que vous comparez des poires et des...
Que la bonne santé... Les conséquences n'ont absolument rien à voir, et le glyphosate, il faut quelque chose pour...
On va se laisser parler. Moi, je pense que la bonne santé de nos paysans...
Mais vous savez qu'il y a un débat sur le glyphosate.
Dans ma région,
il y a eu un gros débat après l'envoyé spécial.
Il y a aussi des études qui sont des études sérieuses.
Bah oui, il y en a d'autres qui disent totalement le contraire.
Suffit de penser. Moi, vous savez, quand on parle du glyphosate et qu'on me dit il y a débat, je dis le débat il est assez simple. Il suffit de regarder le corps de Dwayne Johnson, le jardinier américain qui a gagné 250 millions de dollars dans son procès contre Monsanto. Donc à un moment donné, il faut être un peu raisonnable. Ouais. La santé de nos paysans. Moi, je viens d'une région, le Pays Basque, où on a une agriculture durable et une agriculture raisonnée qui se développe fortement parce que nos paysans ont compris. Qu'il fallait, à un moment donné, avoir un autre mode d'agriculture. Tout ce que je vois, simplement, c'est que quand il s'agit de la santé des enfants, ça ne le dérange pas de repousser les mesures. Quand il s'agit de la bonne santé financière des plus fortunés, là, par contre, il faut agir tout de suite.
Allez, on se retrouve dans quelques... Oui, Mathieu, vous avez un coup de cœur, mais je ne sais pas s'il nous reste du temps. On le fera au retour de la pub. Ne vous inquiétez pas, c'est un coup de cœur qui nous fait du bien.
C'est le glyphosate, le coup de cœur de Mathieu.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, vos coups de cœur, vos coups de gueule, et puis l'actualité, on va parler donc de ces djihadistes français en Syrie qui doivent revenir en France, mais il y a un coup de cœur de Mathieu
Alterman. Un coup de cœur qui fait du bien quand même, un petit peu, c'est le grand retour de la chanteuse Keren Anne. Alors Keren Anne, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est elle
bien
qui avait écrit
le Jardin d'hiver,
évidemment, pour Henri Salvador. Elle a fait plusieurs albums en français, mais ça faisait 14 ans qu'elle n'avait plus chanté en français. Elle revient, le premier single est sorti cette semaine, le clip est sorti aujourd'hui, ça s'appelle Sous l'eau. C'est une merveille absolue, c'est-à-dire que c'est le mélange de la grâce et de la force, et surtout ça fait très mal à la concurrence parce qu'elle est des années-lumière au-dessus. Hein. Il y a un phrasé, c'est tellement mieux que le reste.
Elle est tellement talentueuse.
Ah ouais, c'est
on
super brillant.
On écoute un petit extrait. Bah,
j'ai regardé la vidéo en tout cas partout.
C'est beau sous l'eau quand le soleil splendide.
De Bachung, dernière période. Alors évidemment, il ne faut pas l'écouter en voiture, sinon à un moment
on risque de...
Sur une bonne chaîne et c'est fabuleux.
Eh ben, c'est bien, ça fait un petit peu de bien. La musique adoucit les mœurs, comme on dit. Voilà. Faut-il rapatrier les djihadistes français, selon les informations donc, de BFM TV, près de 130 hommes qui sont actuellement détenus en Syrie et considérés comme des djihadistes vont être rapatriés en France dans les prochaines semaines. La cause, c'est évidemment le retrait américain de Syrie. Ils sont détenus, donc tous ces hommes, sous la surveillance des Kurdes. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Tous ceux, alors, ce matin, Christophe Castaner disait tous ceux qui rentreront en France seront judiciarisés et confiés aux juges. Bertrand Soublet, on va commencer avec vous, qui connaissez un petit peu le sujet. Pourquoi on les rapatrie, pourquoi on les accueille ?
Eh ben, c'est une bonne question, parce que je pense que à partir du moment où on a choisi de quitter la France pour se préparer à lutter et à démolir notre système de société, qui est la démocratie, je pense qu'on n'a plus rien à faire en France et qu'ils n'ont plus leur place dans notre pays. Alors après, si nos gouvernants...
L'argument du gouvernement, c'est de dire, comme il n'y a plus de gardiens, on risque de perdre la trace de ces djihadistes qui vont s'évanouir dans la nature.
Quel est le problème ? Ils ont fait un choix dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de quitter leur pays. Alors, on va me dire, oui, ils sont français. Oui, ils ont un papier qui dit qu'ils sont français. Mais au fond de leur cœur, sont-ils vraiment français ? Je n'en suis pas sûr.
0826 300 300, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit les rapatrier, les juger en France ou les laisser là-bas et s'évanouir dans la nature ? Alors, Mathieu Alterman.
À mon sens, le problème aujourd'hui qui se pose, ce n'est pas de savoir si on doit les faire revenir ou les laisser là-bas. Il faut que la France, ce soit lisible. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce que veut faire la France. Est-ce qu'ils veulent les faire revenir ? Bon, d'accord, ils les font revenir. Est-ce qu'ils veulent les laisser là-bas ? On ne sait pas. On a l'impression qu'on fait au cas par cas. C'est complètement illisible. On parle. Il y a aussi le problème des enfants. Là, c'est autre chose quand même. Il y a des enfants qui sont là-bas, qui sont dans des camps comme les camps en Irak. C'est géré. Il faut voir comment.
Bon. Là, je crois qu'on parle plutôt des hommes.
Alors bon, les adultes. Bon, moi, j'ai pas d'avis. Enfin, à la limite, oui, effectivement, je pense qu'il faut pas les accueillir. Mais à ce moment-là, qu'on fasse la même chose pour tout le monde, que ce soit clair, défini, écrit, c'est tout. Mais on et pas que ce soit une situation pareille.
L'expression qui a été employée par Christophe Castaner est assez maladroite. Qu'est-ce que ça veut dire judiciariser ? Qu'est-ce qu'on met dans ce mot ? Alors, présenter ces gens devant un juge, d'accord, mais en attendant de les présenter devant un juge, et on connaît les lenteurs de la justice dans notre pays, ils sont dans la nature. Je pense qu'il y a un risque immense, vous l'avez très très bien dit, Monsieur Sublet, que ces gens-là ont choisi une autre option, une autre philosophie, un choix de vie, et surtout contre leur propre pays. Je pense que ces gens-là doivent rester où ils sont, ou partir ailleurs, mais en tous les cas, ne doivent pas franchir les frontières de notre pays. Je pense qu'on a assez de problèmes avec le terrorisme, parce qu'on a déjà des fichesses, et on ne sait pas ce que ces gens sont capables de faire du jour au lendemain. On ne va pas en plus en ramener.
La difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir après, quand ils auront purgé leur peine, et qu'ils auront bien contaminé autour d'eux quand ils seront en prison, parce qu'on sait, tout le monde sait que la prison, aujourd'hui, est le lieu de prosélytisme le plus favorable dans notre pays. Bien. Une fois qu'ils auront fait leur action en prison et qu'ils sortiront, ils présenteront un danger potentiel pour notre pays. Moi, je pense que quand on est un politique responsable, on ne peut pas prendre ce risque-là. Et quand on prend ce risque-là, eh bien, on devra, à un moment donné, rendre des comptes.
Oui. Juste pour préciser, Mehdi, avant de vous donner la parole, Mehdi Ouraoui, Christophe Castaner a prononcé cette phrase que je trouve aussi étrange. Lorsque le juge estimera qu'il faut les mettre en prison, et ce sera l'essentiel des cas, ils seront mis en prison. Déjà, je trouve qu'il y a une interférence de l'État. Par rapport à la justice, c'est pas lui qui va dire si cette phrase est assez sidérante.
Tout est dit. Ouais. C'est-à-dire que, bon, déjà, Christophe Castaner est maladroit, c'est devenu un pléonasme. Et donc, ce qui est très inquiétant, c'est quand même que cette affaire va être traitée par quelqu'un qui a quand même démontré son incompétence de façon très constante depuis qu'il
est
ministre.
C'est pas lui, c'est la justice qui va.
On voit bien qui s'exprime. Et on voit bien qui va être chargé du maintien de l'ordre dans notre pays et de notre sécurité. Je suis jamais très rassuré de penser que c'est Christophe Castaner qui s'occupe de la sécurité de mes enfants dans ce pays.
Jusqu'à maintenant,
il a quand même tout foiré. Maintenant, on se dit les choses franchement. Bon, mais le problème, c'est que vous savez, quand un pâtissier rate un gâteau, c'est jamais qu'un gâteau raté. Quand un ministre de l'Intérieur rate quelque chose, c'est des vies qui sont en jeu. Que ce soit la gestion des gilets jaunes, que ce soit le maintien de l'ordre pendant les manifestations, de manifester. Et moi, je le dis vraiment, ça me coûte.
Je pense que tout le monde n'est pas d'accord. Il n'y a pas eu de mort.
Il n'y a pas eu de mort des forces de l'ordre.
Il y a
eu 18 éborgnés. Et alors moi je le dis, en plus vraiment, ça me coûte parce que moi je suis considéré plutôt à gauche comme un républicain rigoureux. Et donc je trouve que la façon dont il a instrumentalisé les forces de l'ordre dans cette affaire, de façon parfaitement politicienne, et d'envoyer au casse-pied les gendarmes mobiles, la police, constamment, à les mettre tellement sous pression que ça se finit avec des forces de l'ordre qui tirent dans la tête des manifestants au flashball. Vous croyez que psychologiquement, pour un policier qui se retrouve à faire ça, vous croyez qu'on n'a pas des conséquences jusqu'à la fin de sa vie ? Quelqu'un qui a éborgné quelqu'un d'autre ? Et quelqu'un qui est éborgné, vous croyez qu'il n'y a pas de... Voilà. Christophe Castaner, pendant ce temps-là, dort tranquillement dans son grand lit, dans son grand ministère, sans être capable de gérer ce problème-là.
Là, en l'occurrence, c'est la justice qui va devoir gérer ça.
Sur cette question-là, bon, si c'est une affaire sécuritaire, c'est-à-dire si on fait revenir ces gens parce qu'ils risquent d'aller dans la nature, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'effectivement, moi je préfère très, très sincèrement que ces gens-là soient enfermés entre quatre murs plutôt, plutôt qu'ils soient capables. Bah, ça, pour le coup, moi j'interfère pas. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des peines qui sont des peines très lourdes en France pour ce genre de choses. S'il faut les alourdir, pourquoi pas ? Il faut en débattre. Mais en tout cas, ces gens-là sont toujours mieux surveillés.
Rien n'est prévu dans le code pénal et donc, pour ceux qui ont quitté la France.
Non, pour les actes de terrorisme, ils ont toujours.
Non, mais s'ils n'ont pas commis d'actes de terrorisme, qu'ils sont rapatriés. Rien dans le code pénal ne prévoit d'enfermer ces gens-là.
Là, je vous assure qu'il y a une bonne centaine de chefs d'inculpation qui peuvent leur faire passer beaucoup de temps en prison si les juges le décident.
Pas sûr.
Simplement, moi, j'ai une chose qui me préoccupe, c'est que aux États-Unis, par exemple, dans l'affaire du Venezuela, il y a quelques jours, on voit bien. Trump, il convoque les parlementaires qui sont un peu concernés, les forces de l'opposition comme les forces de la majorité, il les informe très précisément de ce qui va se passer et de ce quelle sera la position des États-Unis. Là, on a l'impression que c'est encore l'improvisation la plus complète. Mm. Et est-ce que les responsables des partis politiques, les responsables des différents partis à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont été consultés pour leur dire dans quelles conditions ce rapatriement sera fait, quelles seront les garanties de sécurité qui sont nées ? Nous n'avons aucune garantie de sécurité.
Vous savez, c'est un métier, la politique.
Tout ça est extrêmement grave. C'est-à-dire que vraiment, tout ça est improvisé et nous n'avons aucune garantie sur la sécurité des Français avec ce rapatriement. C'est ça le plus inquiétant.
On se retrouve avec vos appels. On aura Hervé, on aura Manuel, 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, je suis avec le général Bertrand Soublet, vice-président d'Objectif France, Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, Mathieu Alterman, journaliste, et Mehdi Ouraoui, porte-parole de Génération.S. Nous parlions donc de ces 130 djihadistes qui doivent revenir en France et qui seront judiciarisés. C'est le mot effectivement un peu étrange employé par le ministre de l'Intérieur. Vous êtes nombreux à nous appeler. On a Hervé en ligne avec nous. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'on doit les rapatrier, ces djihadistes ?
La question, je ne pense pas que ce soit de les rapatrier. Hein. La question est de savoir qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans avec les immigrés qui sont arrivés en France, qu'on a maltraités, qu'on a mis dans des thés. Ils ne sont pas français dans leur cœur. Moi, j'ai fait travailler 12 travailleurs marocains français. Eux, ils retournent dès qu'ils peuvent au bled. Eux, ils ne se sentent pas français puisqu'ils sont rejetés depuis 40 ans par l'ensemble de la population.
Est-ce que c'est le sujet de ces djihadistes ? Parce qu'il y a aussi des convertis.
Et du coup, les djihadistes roux, on fait quoi ? Les djihadistes blonds aux yeux bleus,
Il faut qu'il y ait un discours du président, une bonne fois pour toutes, qui reconnaisse les erreurs qu'on a faites depuis 40 ans, qu'il y ait un vrai plan de cité, qu'on détruise ces buildings où on entasse toute cette population, et qu'on intègre vraiment ces gens-là, quoi. Une bonne fois pour toutes.
Mon père vivait dans un bidonville quand il est arrivé en France. Et ça n'a pas fait de moi un djihadiste, ça a même plutôt fait de moi, j'espère, quelqu'un qui s'engage dans la cité et qui s'engage pour ses idées. Donc quel est le rapport ? On ne va pas trouver une excuse sociale à des types qui sont simplement des terroristes et des militants terroristes.
Et surtout que parfois ils viennent pas du tout de
cité. Ils sont convertis.
On a vu qu'il n'y avait pas du tout de relation justement avec le contexte social.
Pardon Hervé, c'est pas vraiment, j'entends ce que vous dites, s'intéresser aux causes, sauf qu'aujourd'hui on a une question, un problème, qui sont ces gens qui sont ces djihadistes qui sont en Syrie, qu'aujourd'hui les États-Unis se retirent de Syrie et que les Kurdes vont les relâcher. Donc retrouver les origines, pourquoi ils sont devenus djihadistes, certes on peut se poser la question. La question qu'aujourd'hui, qui vous est posée aujourd'hui, c'est celle de savoir ce qu'on doit faire de ces djihadistes. Manuel, est-ce que vous avez, vous, un point de vue ?
Bonjour Valérie, bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Oui, déjà moi d'emblée, je suis contre. Qui rentrent, pour moi c'est des traîtres à la nation et ils doivent être jugés en tant que tels. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y en a qui vont sortir de prison là, je ne sais pas quand et quel est le nombre, parce que je ne suis pas au fait de l'actualité, mais moi ça me pose un énorme problème. Je ne sais pas si les gens se rendent compte dans quel état est ce pays, et rajouter encore des problèmes, c'est mettre de l'huile sur le feu. À croire que ces dirigeants, qui eux aussi devraient passé devant les tribunaux, et ça date depuis quelque temps, vu ce qu'ils ont fait de ce pays, moi ça m'afflige, et je suis vraiment très, très très triste. Parce que moi, vous savez, il y a 50 ans, ce pays m'a adopté. Et pour moi, la France, c'était le pays des Lumières. C'était le plus grand pays d'Europe. C'était où on avait toutes ses chances pour réussir. Moi, je suis immigré portugais. C'était le plus beau pays. Et voir ce qu'on est en train de faire, de le fractionner, les gens s'opposent les uns aux autres. On essaye de les monter les uns contre les autres. La police contre les gilets jaunes, les gilets jaunes contre les foulards rouges. Et en plus, on ajoute à tout ça des gens qui un jour vont retourner leurs armes contre nous. C'est pas possible. Il faut que tous les républicains de ce pays s'emparent du problème, parce qu'on est à un tournant historique, je dis bien un tournant historique, et ce pays va imploser sous nos yeux. Et moi, je suis très préoccupé. Franchement, moi, je suis très triste.
On l'entend, Manuel. On a sur notre Facebook Live Pierre qui dit rapatrier les djihadistes, c'est dangereux, ne pas les rapatrier, c'est dangereux. Quel est le moins dangereux, à mon avis, c'est quand même de pouvoir les contrôler, au gouvernement de mettre en place les méthodes, de mettre en place des méthodes, et puis on va payer pour ça. Enfin, on le paye pour ça. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de les contrôler ? Vous dites qu'il ne faut pas les rapatrier, Bertrand Soublet.
Ah oui, moi je pense qu'ils ont fait un choix et qu'il faut qu'ils assument leur choix. Ensuite,
qu'est-ce qui est le moins dangereux pour la France ?
Ah ben c'est
des gens haineux qui ont envie de commettre des attentats et qui pourront, par des moyens divers, revenir.
Par des réseaux.
C'est-à-dire que, de toute façon, s'ils ont véritablement envie de rentrer, qu'on les empêche de rentrer, ils rentreront, mais auquel cas, là, pour le coup, on saura quoi faire avec eux. Mais moi, je pense que, compte tenu du choix initial qu'ils ont fait, il faut qu'ils restent dans le pays où ils sont allés et puis qu'ils assument. Ils ne sont français que par le petit papier qui les rend français, et ils ont fait le choix de combattre la France, donc nous prenons un très grand risque si nous les faisons rentrer sur notre territoire.
C'est un peu plus profond que ça, parce qu'on peut parler de rédemption pour quels que soient les criminels d'ailleurs. Là on a un problème où c'est un secteur où quand vous faites de la prison, vous ne pouvez pas être déradicalisé, ça ne marche pas, la déradicalisation, on le sait, les chiffres le montrent, il y a 1,5%. Bon, donc faire revenir des gens radicalisés en France dans des prisons où il y a déjà des gens qui viennent d'ici, qui sont aussi radicalisés, qui n'arrivent pas. Effectivement, les Français ne peuvent pas le comprendre. C'est ça le truc.
Ouais. Par ailleurs, les Kurdes, quand même, nous ont rien demandé. Alors moi, depuis tout à l'heure, on fait comme si on pouvait les laisser là-bas sans qu'il y ait de conséquences et sans que les Kurdes, à un moment donné, nous disent « Non mais écoutez, vous êtes sympas, mais enfin, c'est quand même des gens qui ont grandi chez vous, qui ont eu la nationalité de votre pays, etc. Débrouillez-vous avec eux. » C'est comme si on s'amusait à aller, pardon de l'expression, à aller jeter nos poubelles chez le voisin. À un moment donné, il faut aussi s'occuper nous-mêmes de ce que la République a produit de pire. Parce que je crois pas qu'on ait la République puisse produire quelque chose de pire.
Ils sont combien exactement? On a des chiffres.
On parle de 130.
Là, on parle de
130 personnes.
Ce n'est pas la République qui a fait ces gens-là.
Ah, moi, je crois qu'on a une responsabilité.
Non.
Malheureusement,
non.
Voilà.
Je crois qu'il y a eu un jour un islam politique qui s'est livré à une propagande, à des lavages de cerveau. Mais ce n'est pas la République qui a produit ces gens-là.
Moi, je crois qu'on a une responsabilité collective. Mais je vais vous étonner, Patricia. Je ne vous dis pas qu'il faut leur trouver une excuse sociale. C'est que je crois qu'on a commis une faute. C'est qu'on aurait dû les prendre bien en amont. Et on aurait dû les corriger
en
amont.
On aurait dû être beaucoup plus ferme avec ces gens-là.
Patricia a raison. C'est qu'on a des djihadistes dans tous les pays européens, quels que soient les gouvernements.
Pas forcément les mêmes proportions.
C'est une idéologie qui s'est propagée.
Mais exactement. Ce sont des militants. Ces gens-là sont des militants politiques.
Donc je parle d'islam politique.
Ce ne sont même pas.
Donc la République française n'y est pas plus pour quelque chose que la Belgique ou
l'Allemagne ou l'Inde.
Absolument.
Mais attendez, si un militant d'extrême droite demain va faire un carton dans une mosquée ou on dira c'est un militant d'extrême droite qui commet un attentat, il faut le dire, c'est comme ça. Si ces gens-là décident de prendre les armes contre leur pays, ce sont des traîtres, voilà. Et donc, il y a d'ailleurs le seul cas de déchéance de nationalité.
Je ne connais pas beaucoup de chrétiens ou de juifs
avant le débat
qui posaient des bombes.
Si, mais ça arrive, tous les jours.
Non.
Mais pardon, c'est dans le monde. Dans le monde, ça arrive tous les jours. Et par ailleurs,
vous êtes au courant de l'attentat qui est eu contre les églises.
Mais dans le monde, ne manquons pas de subtilité. Des attentats de religieux extrémistes, il y en a dans toutes les religions, il y en a dans tous les pays du monde.
Non, c'est pas vrai.
Il n'y a pas d'attentat en Israël, par exemple.
Il n'y a pas d'attentat commis par des juifs pour détruire des musulmans, ça n'existe pas.
David Sacrabine, par exemple, il a été tué par qui, je crois. Bah, il n'a pas été tué
par
qui.
Donc
il n'y en a pas, mais
quand on se cite quelqu'un, il y en a. C'est pas un attentat sur des
gens. C'est un attentat sur un dirigeant politique.
Sur le sol français, je ne connais pas de chrétien ou de juif à ce jour qui posait une bombe.
Mais bien sûr que si, en France, il y a eu des cinémas brûlés encore il y a des années 80.
Mais une fois en 88 pour la réinventation du Christ.
Soyons sérieux.
Bon, on va prendre Gilles en ligne avec nous. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour à vous. Est-ce qu'il faut les rapatrier, ces djihadistes?
Mais non, surtout pas. Mais vous rendez compte, il faut les laisser où ils sont, ces gens-là.
Oui.
Comme vient de dire un auditeur, là, on va quand même pas remettre de l'huile sur le feu. On est un pays qui est en pleine crise. On a des gens qui ont travaillé toute leur vie en France, qui n'ont plus de salaire, on baisse les retraites. Et aujourd'hui, on nous dit on va faire venir des migrants, on va faire venir des terroristes chez nous. Mes grands-parents ont vécu la guerre. C'est honteux, c'est une honte et c'est scandaleux. Monsieur Macron, président de la République...
Vous baissiez votre radio.
Moi, je vais vous dire, il faut le virer de suite.
Bon, alors on vous a entendu. Vous dites, il faut qu'il reste là-bas. Question.
Je crois que Gilles veut envoyer Macron chez les Kurdes. Là, il faut du calme. Tout va bien.
Mais une question. On regarde tous la télé, le Bureau des légendes. Les États règlent la solution sur place, pour parler de façon un peu. Par euphémisme, Bertrand Soublet.
Oui, bien sûr, nous avons les moyens de régler ces questions individuelles à distance. Ça ne pose aucun problème. Mais là aussi, c'est une question de courage politique et de lisibilité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? On n'a pas aujourd'hui d'idée très précise de ce que le gouvernement a l'intention de faire avec la question des djihadistes et des gens radicalisés. Voilà. Quand il y aura eu des annonces claires et que tout le monde saura de quoi il s'agit, eh bien, plus personne ne se posera de questions et les solutions seront... elles sont à la disposition, les solutions. Il n'y a aucun problème. C'est une question de décision.
Mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est l'absence de décision précise. Et quel que soit le domaine aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est peut-être le problème du « en même temps », on a l'impression que, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur un sujet, hein, on ne sait jamais trancher. Mmh. Donc moi, je pense que les gens ont envie qu'on tranche, même quand ils ne sont pas d'accord. Ils ont envie simplement que la décision soit lisible.
Et compréhensible, voilà. Absolument.
Vous savez, le problème, c'est que dans la campagne électorale du président Macron, il y a des sujets qui ont été mis de côté. On a mis la poussière sous le tapis et il y a des sujets qu'on n'a pas voulu aborder. Je veux dire, encore une fois, l'islam politique est un sujet que le président n'aborde toujours pas. Et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est aussi parti pour ces raisons, en disant « on va avoir un problème, le président n'entend pas ».
Oui, enfin, Patricia, vous savez bien aussi qu'il y a... Excuse-moi, il y a un problème de communicants autour qui lui disent « ça, il ne faut pas l'aborder parce que c'est très clivant ». Il y a ça aussi, c'est la peur...
Ou qui ne sait pas bien... Voilà.
C'est un économiste, le président de la République.
Ou il fait de la communication.
C'est un économiste.
Oui,
il a certains sujets de prédilection et d'autres qu'il n'a pas saisi encore. Il n'a pas saisi la gravité.
Patricia, moi, je crois surtout que c'est un trader plus qu'un économiste. Et donc, c'est quelqu'un qui regarde les courbes, qui regarde les sondages, qui regarde ce qui monte et ce qui baisse. Et donc, il a une gestion de ces sujets-là qui est une gestion, il faut dire les mots, il a une gestion communautariste, électoraliste. C'est-à-dire que quand il est devant des musulmans, il leur promet de changer la loi de 1905. Quand il est devant les évêques de France, il leur explique qu'il y a un problème avec le mariage pour tous et qu'il ne fera pas la PMA.
Il parle de crimes contre l'humanité.
Quand il est en Algérie, il parle de crimes contre l'humanité. Mais quand il est en France, il ne dit pas de repentance. C'est-à-dire que c'est pas le président du en même temps, c'est le président du je dis à celui qui m'écoute ce qu'il veut entendre.
C'est Zélig, le film de Woody Allen.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas gouverner un pays avec une colonne vertébrale aussi flexible. C'est à un moment donné, un président de la République, qu'on le veuille ou non, il faut que ce soit un peu droit.
Mais sa pensée politique n'a pas été déterminée dès le départ. Et on ne sait
sur certains sujets,
quelle est la pensée politique.
Alors, on a Pierre qui nous dit sérieusement, contrôler 130 personnes en isolement, même pendant une très très longue durée, c'est un problème insoluble, point d'interrogation. on peut contrôler. Et John Peter nous dit, non, pas de retour de meurtriers en France quand on voit la sécurité de nos prisons. L'erreur n'est pas permise. Donc il lui répond d'une certaine manière.
C'est 130 personnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne. Finalement, moi j'ai plus peur des gens qui sont ici qui veulent aller là-bas, plutôt que ceux qui sont là-bas qui sont que 130 finalement. Ils sont des milliers qui veulent faire des attentats. Là, il y a 130 effrayants. Personnes. Bon, entre 130 et des milliers, j'ai plus peur des milliers, moi.
Enfin, là, c'est 130 bombes humaines, quand même.
Bon, donc on va attendre de voir ce qui va se passer avec ces 130 djihadistes, donc qui vont revenir.
Faut pas écarter l'hypothèse, quand même, que ce soit une allumette déclenchée par le pouvoir pour hystériser le débat public. Et là, on voit bien que c'est un pouvoir qui est très en difficulté sur la question des gilets jaunes, sur la question. Il a essayé de le faire il y a quelques semaines avec la loi de 1905, en disant qu'il voulait réformer la loi de 1905 pour l'islam de France. On se demande si, d'ailleurs, ça n'a pas suivi. Oui. Il a finalement rien fait.
Le jour de l'anniversaire des attentats, de la commémoration des attentats de Charlie Hebdo.
C'est sa classe naturelle, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il fallait faire le lien par ailleurs entre l'islam de France et les attentats de Charlie Hebdo, mais parce que là pour le coup on parle de terrorisme. Donc il y a du terrorisme islamiste,
mais c'était pas très habile de le faire ce jour-là.
Je crois que c'était pas très fin de sa part. Et surtout, c'est simplement, moi je me demande si c'est pas une grosse ficelle de communication comme d'habitude de déclencher une polémique alors que il est en très grande difficulté dans l'opinion.
Ouais, moi je pense que c'est surtout une question politique et diplomatique. Il faut que ça soit réglé en amont, mais de manière politique. Et c'est trop facile après de dire, oui, mais on va les judiciariser, ça veut dire qu'on transmet le ballon et on fait la passe aux magistrats et à la justice, et puis à l'administration pénitentiaire. Moi, je trouve que c'est un peu facile. Il faut d'abord que les choses soient claires dans l'esprit de nos politiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces 130 personnes, rentrer ou pas. Moi, je dis qu'il faut qu'ils restent là où ils sont.
Allez, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de la loi anti-casseurs. Alors, est-ce que c'est une loi anti-gilets jaunes? Le gouvernement s'en défend, bien évidemment. C'est pour permettre de manifester dans la joie et la bonne humeur, en quelque sorte. Allez, on en débat dans quelques instants. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec Bertrand Soublet, Patricia Balm, Mathieu Alterman et Mehdi Ouraoui. Alors, une loi anti-casseurs, pourquoi faire ? Une loi anti-gilets jaunes, disent certains. Alors, issue de la droite, cette proposition de loi n'est pas une loi anti-gilets jaunes, a affirmé ce matin le ministre de l'Intérieur. L'idée, c'est de durcir les sanctions contre les violences sans entraver la volonté, la liberté de manifester. Donc, je sais pas très bien je vous lis texto. Hein, ça doit permettre à ceux qui le souhaitent de manifester dans des conditions normales, sans peur et sans penser qu'un manifestant, il sèmerait la peur.
Enfin, c'est un exercice seulement pour équilibriste. Le gouvernement. On a le droit de manifester que pour le gouvernement.
C'est un exercice d'équilibrisme, ce qu'il propose. Je pense que on ne peut pas, d'un côté, sortir une loi alors qu'il y a déjà une loi qui existe dans ce pays. Ça. Et fabriquer. En fait, on répond à coups de loi sans arrêt. Voilà. Il y a un problème, il faut une nouvelle loi.
Non, c'est
pourquoi
même pas qu'on répond à des nouvelles lois.
Pas
on répond à des lois qui existent déjà.
Mais c'est ce que je dis.
On va inventer un truc, ça s'appelle l'autobus. Quoi. Voilà.
Qui existent déjà.
Bertrand Soublet, à quoi ça va servir ? Création d'un fichier national des personnes interdites de manifestation, interdiction administrative de manifester par les préfets, périmètre de sécurité pendant les manifestations où des palpations et des fouilles seraient autorisées. Ça prévoit également un nouveau délit de dissimulation volontaire totale ou partielle du visage. Le principe du casseur-payeur préservé. Enfin bon, il y a déjà des lois qui...
Bien sûr, moi je pense que c'est d'abord une manœuvre politicienne de bas étage, de reprendre une proposition de loi qui avait été faite par la droite, donc ça permet de récupérer un tout petit peu la droite, et puis ensuite de faire une opération de com', alors qu'en effet, notre arsenal juridique aujourd'hui nous permet parfaitement de faire face sans voter une nouvelle loi. Et puis, quand bien même la nouvelle loi sera votée, sera-t-elle appliquée ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, la question c'est pas de voter des lois, c'est de les appliquer. Tout simplement.
Non, mais au-delà d'appliquer les lois, les casseurs, on les voit. On peut poser la question dans les manifs. Quand on voit ces types qui sont arrivés avec des banderoles « Coucou, c'est nous » en fin de manif samedi, ils étaient habillés en noir. Oui, on les connaît, on les voit. Pourquoi on ne les arrête pas, ceux-là ? Il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire.
Il y a quand même une nouveauté, à mon sens, sur les manifestations gilets jaunes, c'est qu'auparavant, on avait à chaque fois des casseurs qui n'avaient rien à voir avec les manifestants. Et depuis les gilets jaunes, on a clairement dedans des manifestants gilets jaunes, qui sont aussi des casseurs. Ce qui est un peu la nouveauté. Avant, ils étaient toujours extérieurs au mouvement. Là, on en a un intérieur. À mon sens, c'est la seule différence. C'est pour ça qu'ils communiquent là-dessus. Ils veulent faire une opération de com.
Puis en plus, on a des pères et des mères de famille qui n'ont absolument jamais eu de démêlés avec la justice ni avec la police, qui n'ont pas de casier, qui seront absolument indétectables parce qu'ils pourront...
Oui, mais on parle pas de ceux-là.
Si, parce qu'ils ont, ils faisaient aussi partie des casseurs, ce que vient de dire Mathieu. Moi, après, il y a une chose quand même.
J'ai pas dit que les gens qui n'y ont pas cassé sont des casseurs. J'ai dit qu'à l'intérieur des casseurs, il y a également des casseurs.
Ce que je dis, c'est qu'il y a parmi les casseurs des gens qui n'avaient jamais commis d'infraction par le passé, qui ont pété les plombs. Et donc, ça soulève le principal problème, c'est qu'on a un gouvernement qui apporte une réponse sécuritaire et de com. C'est-à-dire, Castaner fait la sécurité, Macron fait la com avec ses discours à la Fidel Castro, là, dans les gymnases, avec 10 cordons de CRS autour.
Non, vous pouvez pas comparer.
Moi, je voudrais juste laisser.
Et on a, donc, on a une réponse sécuritaire et de com, alors qu'il faudrait une réponse politique. Et donc, les gens demandent une réponse sur des questions précises, le rôle du président de la République et le rétablissement de l'ISF, notamment. Le RIC et le rétablissement de l'ISF. Sur ces deux questions, ce sont des débats tabous, ce sont des débats interdits. Et on nous répond quoi ? Loi anti-casseurs, quand même, que Mitterrand a abrogé avant ma naissance.
Alors, Patricia, puis après, je vous reposerai la question, parce que je repose la question qui est posée. Pas de tabou sur l'ISF, c'est en quoi le rétablissement de l'ISF va faire que les gens mangeront mieux et pourront finir leur fin de mois. C'est la question que pose Emmanuel Macron.
Sans être désagréable, c'est quand même le grand élément de langage du gouvernement en ce moment. C'est ce que dit le président de la République à longueur de temps. Mais de temps en temps, il y a des symboles. Et donc, moi, je suis désolé, quand on est
à la fin du mois, on n'en parle dans les symboles. On veut des choses concrètes.
Parfois, on n'est pas des animaux.
On veut plus d'argent à la fin du mois.
On est des citoyens. Et bah, plus d'argent, moi je suis désolé, mais je vois pas comment on fait pour donner plus d'argent aux gens qui travaillent, qui bossent dur, quand on supprime l'ISF et qu'il faut financer la suppression de l'ISF. Et par ailleurs, il y a un autre truc, c'est que quelqu'un qui se lève le matin et qui bosse dur en ce moment, il se dit, c'est pas normal que des gens qui ont gagné leur argent par la pure spéculation, parce qu'on parle même
non,
pas.
Non,
bah, non, puisqu'il ça existe toujours.
Mais attendez,
il a massacré la fiscalité sur le capital. Il a fait des cadeaux massifs à la fiscalité.
Il faut arrêter avec ça. Vous parlez de quoi ? Vous parlez des gens du CAC 40, ils sont déjà partis.
Ils sont partis.
Il y a, dans les gens qui payent l'ISF, des gens qui font partie des classes moyennes supérieures, qui sont des chefs d'entreprise, qui créent des emplois. Et croyez-moi, ce ne sont pas forcément des entreprises du CAC 40.
Mais vous trouvez ça normal que Carlos Ghosn, il soit défiscalisé ?
Vous parlez de Carlos Ghosn, des chefs d'entreprise.
Carlos Ghosn qui s'était barré pour échapper à l'ISF.
Je vous explique que vous parlez des gens de moyenne supérieure, je comprends rien, stop. Il faut être de bonne foi.
Mais il y a un sujet quand même.
Alors, je vous réponds si vous me laissez juste parler sans m'interrompre.
Laissez Patricia parce qu'on comprend. Et les auditeurs nous disent on comprend rien quand on parle en même temps.
Je dis simplement que parmi les gens qui payent l'ISF, il n'y a pas que des gens comme Carlos Ghosn ou Bernard Arnault ou autres. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont créé des entreprises, qui ont des PME, également des TPE, qui sont des gens qui créent des emplois, qui participent à l'économie de ce pays et qui n'ont qu'une envie, c'est de partir. Et vous savez pourquoi ? Parce que la France est le pays, tous azimuts, où on paye le plus d'impôts. Et on est le seul pays à payer un impôt parce que l'ISF n'a pas été supprimé, il a été transformé et on paye l'IFI aujourd'hui. Et je donne toujours l'exemple de celui qui a pris un crédit pendant 20 ans, qui a acheté une maison, je pense, aux pêcheurs de l'île de Ré. Malheureusement, sa maison... Laissez-moi juste finir. Sa maison a pris de la valeur. Il ne peut pas payer
l'IFI. On connaît l'histoire du paysan de l'île de Ré.
On est sorti un peu de notre sujet, de la loi des casseurs.
Mais le vrai sujet, quand même, c'est ça. C'est qu'on voit bien qu'il y avait deux invisibles dans cette affaire. Il y a quand même, d'abord, les gens qu'on n'écoutait plus, qui ne passent jamais à la télévision, qui n'ont jamais le droit... Sur cette antenne, heureusement, on les entend plus qu'ailleurs. Qui n'ont jamais le droit de parler. Et donc, ils ont dit à un moment donné, on veut être vu. Et donc, on met un gilet avec des bandes réfléchissantes, on se met à nos ronds-points, et maintenant, vous allez être obligés de nous voir.
Ça, on l'a compris.
Et les autres invisibles. Oui, mais il y en a d'autres qui sont invisibles.
Alors, pour revenir sur le sujet...
C'est ceux, Patricia, qui ont les leviers sur la redistribution des richesses.
Alors, pour revenir sur le sujet, la question de Valérie...
Il est où le patron ? Patricia, je vous ai écouté. Il est où le patron de Carrefour, dans le débat, là ? Il est où le patron du MEDEF ?
Vous ne pouvez pas continuer, les riches, les pauvres.
Oui,
ce pays est en train de connaître une fracture.
Il y a un problème, c'est que les gens demandent de la redistribution des richesses. Il veut quand même pouvoir en débat.
On est le pays où il y en a le plus.
On est sorti de notre débat sur la loi des anti-casseurs. Philippe Deleron-Sainte-Marie est en ligne avec nous. Bonjour, Philippe. Faudrait que vous baissiez votre radio, sinon ça va faire de l'écho.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Hein.
Bonjour.
Ouais, alors on vous écoute, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi anti-casseurs, de ce fichier
Oui, je vais vous dire, mais juste un aparté, parce que je vous entends vous chamailler pour l'ISF, je vais vous dire, moi je travaille la nuit parce que j'ai pas le choix, je gagne 980 euros TTC par mois, qu'il y ait l'ISF ou pas, ça changera pas ma vie. Ceci étant dit, la loi anti-casseurs, j'ai été étonné de savoir que les casseurs étaient arrivés en France le 16 novembre au soir, parce que là, quand on voit quand même, ils se foutent un peu de bien notre sûr. Gueule, nos gouvernants, pour parler net, clair, parce que là, la loi, elle est juste faite, ils auraient dû appeler ça loi anti-gilets jaunes, parce que des voitures qui brûlent dans les banlieues, des vitrines cassées, des centres-villes pillés, ben, moi j'ai 59 ans, ça fait 30 ans que je vois les images à la télé. Oui. Si on avait voulu s'occuper des casseurs qu'on connaît, je pense que Castaner et ses prédécesseurs, ils auraient largement pu s'occuper des casseurs il y a longtemps. Et je veux voir comment ils vont aller fouiller les
banlieues.
Les banlieues. Ils auront pas sorti du camion, nos chers flics et gendarmes, que le camion il sera déjà caillassé. Donc Castagnette et notre monarque, ils veulent simplement empêcher que les gilets jaunes continuent de manifester. Et quant aux casseurs, vous savez, moi j'ai fait un peu de politique, alors ça parlera pas aux plus jeunes, mais à l'époque, il existait ce qui s'appelait le sac. Et moi je connais les gens du sac, qui, avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur, allaient mettre le bordel dans les manifestations de la CGT, entre autres. Ouais. Et là, bien sûr que dans le lot des casseurs, il y a aussi des gens qui sont là avec la bénédiction de notre monarque et de Castagnette pour aller mettre le bazar. Voilà.
Merci Philippe, il nous reste à peine une minute.
Moi, je voudrais dire une chose. Aujourd'hui, on parle encore des manifestations des Gilets jaunes. On va vers l'acte 12. Je m'aperçois tous les jours que finalement, le gouvernement a accepté qu'il y ait tous les samedis des manifestations des Gilets jaunes. Et je n'ai pas entendu un membre du gouvernement dire aux Gilets jaunes, jusqu'à quand allez-vous paralyser notre pays? Jusqu'à quand allez-vous empêcher les commerçants de travailler? Parce que ce n'est pas politiquement correct de dire
ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus long mouvement social sur la durée avec le moins,
avec le moins de gens.
Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant.
Donc on a banalisé ces actes 1, 2, 12 bientôt. C'est, voilà.
Un mot sur ce que vient de dire Philippe, Bertrand Soublet, à savoir, les casseurs, ils ne sont pas nés avec les gilets jaunes. Il y en a eu, il y en a toujours eu.
Non, mais on revient toujours au même principe, c'est-à-dire que si l'on veut traiter les problèmes, il faut du courage politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de courage politique. Nos hommes politiques, ceux qui sont au gouvernement, sont totalement tétanisés et sont incapables de montrer, d'indiquer le sens de l'action aux Français et de leur dire où ils veulent aller. Tant qu'on en sera là, on n'avancera pas.
Merci à tous les quatre. À suivre André Bercoff. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain à 10h pour d'autres infos.